Alors merci. Merci beaucoup d'avoir mis beaucoup de clarté en fait dans ces concepts qui au départ paraissent simples et qui en fait nécessitent beaucoup de nuances. Et puis quand on y va plus profondément, on se rend compte effectivement qu'il y a ces nuances permettent de voir aussi l'évolution des discours. Parce que je suis frappé de ce discours un peu caricatural dont vous parliez à un instant, hein, qui opposerait d'un côté la justice qui vient opposer les gens et puis la médiation qui vient les réunir, enfin quelque chose un peu à l'eau de rose. C'est un discours une certaine manière de promouvoir la médiation a tenu pendant longtemps. Et franchement, j'ai toujours été un peu sceptique par rapport à ça, et puis je suis même pas sûr que ça fasse soit la meilleure manière de vendre la médiation, si en plus tel était l'objectif, parce qu'il faut encore se poser la question. Donc les choses ont évolué assez rapidement en fait par rapport à ça. Alors voilà, on m'a demandé d'être votre discutant. D'abord, c'est un grand honneur qu'on me demande, parce que je ne suis vraiment pas académique. Je suis vraiment un praticien du droit familial en tant qu'avocat, et puis praticien de la médiation familiale. Voilà. Alors, le rapport que j'ai à l'université, à l'institution université, c'est quand même que, effectivement, je forme à la médiation à l'UCL, à la médiation familiale. Et puis, autre chose qui va peut-être un peu plus me rapprocher du propos que je vais tenir pendant cette brève intervention, c'est que j'interviens dans le cadre d'un certificat universitaire en anthropologie, à l'UCL aussi, qui s'appelle Santé mentale en contexte social, où, pour ce qui me concerne, j'interviens sur la question de la figure, de pas seulement du juge, mais du juge, du médiateur, mais de l'intervenant en général auprès des familles dans les hypothèses de conflit, en rapport avec ce que j'appellerais les modèles de famille. Donc c'est un peu à partir de là que je voudrais vous parler. Alors, on m'a demandé d'être discutant, mais discutant vraiment pas dans le sens d'une interpellation, d'une critique ou quelque chose de cet ordre-là, parce que franchement, je partage tout à fait cette idée que vous avez reprise finalement au début et puis vous avez terminé par là, cette idée selon laquelle finalement la médiation et le procès en matière civile sont traversés par des logiques qui se rapprochent très fortement, hein, plus qu'elles ne se divisent. Et je trouve que dans le domaine familial qui est le mien, moi je me limiterai à ça, c'est vraiment très clair, hein, cette évolution de la figure du juge, cette pondération des intérêts, vous avez dit, hein, la contribution à la paix sociale, ce souci qu'a le juge en fait à tout moment de rechercher l'adhésion des parties au moment où il rédige son jugement, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait clair et très présent. Hein. On va dire, j'ai toujours pensé qu'il y avait beaucoup plus de points communs entre les manières de faire du juge aux affaires familiales, pour prendre l'expression française, et le médiateur, qu'entre ce même juge aux affaires familiales et le juge du divorce. Hein. Le juge du divorce pour faute est aux antipodes, si vous voulez, de cette logique-là. Donc, en fait, les différentes logiques procédurales, si je puis dire, ou de la figure du juge, traversent en réalité l'institution judiciaire elle-même beaucoup plus, peut-être, qu'elle n'oppose d'un côté les médiateurs et de l'autre les juges. Voilà. Vous avez cité les travaux de François Host, Jacques Lenoble, Jean de Minck, et cette idée de ils ont parlé, je crois, de justice procédurale. Hein. Donc, c'est quelque chose qui, de nouveau, dans le domaine familial, est très présent, cette idée que l'institution justice se limiterait finalement à fournir un cadre pour un cadre au sein duquel un débat va pouvoir s'ouvrir entre les parties et de laquelle une solution va émerger. Et cette solution sera finalement le jugement. Hein. Mais on voit bien que c'est terriblement proche de ce qu'on fait en médiation finalement. Et voilà, de nouveau, quand on analyse la manière dont le débat judiciaire se développe dans le cadre de ce qu'on appelle en Belgique l'hébergement, ou la garde, si vous voulez, des enfants, on voit que il y a pratiquement pas de normes substantielles. Hein. Il y a en Belgique juste une loi qui dit assez mollement qu'il faudrait préférer un hébergement le plus égalitaire possible, mais c'est très mou. Pour le reste, c'est essentiellement du procédural. On dit qui sont les interlocuteurs du débat, il y a les règles de procédure classiques, droit de la défense, etc. On dit quel est le critère d'évaluation, c'est l'intérêt de l'enfant, mais ça ne veut pas dire grand-chose, tout le monde est d'accord là-dessus. Et puis, pour le reste, il y a certaines balises, il y a des règles d'ordre public. Donc là, effectivement, à un moment, il y a certaines balises qu'il ne faut pas franchir, mais enfin, avant qu'on les atteigne, il faut vraiment arriver à quelque chose de très loin. Donc on se rend compte que quand la justice fonctionne comme ça, finalement, on est dans des logiques extrêmement proches de ce qui peut se faire en médiation. Donc là-dessus, évidemment, je ne peux que partager votre approche. Mais mon propos est un peu différent, puisque moi, ma pratique m'a amené à m'intéresser à un autre phénomène. Et donc, moi, ce que je vous proposerais, c'est de vous le décliner et puis de voir ensemble, puis tous ensemble, voir est-ce qu'il y a des correspondances, parce que finalement, je ne sais rien, je ne sais pas tellement. Mais c'est peut-être ça qui serait intéressant de creuser. Enfin, en tout cas, ce sera ma proposition. Parce que d'un côté, il y aurait au fond, ce que j'appellerais une déformalisation de la justice. Et je dirais qu'on assiste parallèlement à ce que moi j'appellerais une déformalisation de la structure familiale. C'est-à-dire une déverticalisation, une horizontalisation de la structure familiale. Et évidemment, ce n'est pas un hasard, hein, puisque quelque part, on sait que la figure d'autorité est quelque chose qui a été mise à mal depuis 30, 40 ans dans nos sociétés, et que cette figure d'autorité, ben, elle concerne à la fois le père, le juge, mais les institutions au sens large, l'État, les universités, les professeurs, enfin voilà. Tout ça, ce sont des choses, évidemment, des mouvements de société importants, et donc là, certainement, là, il y a une certaine correspondance. Pour revenir au champ familial et pour vous dire très schématiquement, je dirais que on viendrait d'une famille assez inégalitaire avec un pouvoir prépondérant qui est donné au père, avec surtout, je dirais, des rôles familiaux qui sont prédéfinis et relativement codifiés. Mais c'est pas du juridique. Hein. C'est en termes de pratique familiale, de vécu, il était assez clair. Ce qu'il fallait faire et comment il fallait se comporter en tant qu'homme, femme, mari, épouse. Il y avait comme un code, et vous avez encore ça dans des sociétés plus, je dirais, traditionnelles. Et les rôles étaient assez définis aussi. Bon, on savait bien que le père, c'est plus vers l'extérieur, il a un rapport distant aux enfants, il rappelle la règle. Quand les enfants deviennent grands, ben, il les confronte un petit peu plus vers le monde, et la mère est plus vers l'intérieur, et elle est plus axée sur les soins aux enfants. Et donc, vous avez cette complémentarité des rôles au sein de la famille qui crée en fait une situation de dépendance réciproque. Il y a cette interdépendance et qui fait que aussi la famille est comme une petite entreprise. Donc voilà. Alors ce qui est intéressant aussi pour notre propos, c'est que dans ce contexte plus traditionnel, hein, mais qui n'est pas si éloigné de nous qu'on ne le pense, c'est donc bien sûr là-dessus que je vais en venir, parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt. C'est qu'il y a des figures de modèles de médiateurs traditionnels. Ça existait. Hein. Et qui étaient fournis par la communauté. Parce que, si vous voulez, ces structures familiales traditionnelles sont soutenues et encadrées par la famille élargie et par la communauté. C'est vraiment quelque chose de très important. Qui intervient non seulement au moment de la conclusion de l'union, qu'éventuellement, quand il y a des crises, etc. Ou alors, vous avez cette communauté qui adresse au couple ou la famille en difficulté des médiateurs censés essayer d'arranger les choses, hein. Donc c'est le curé, l'imam, l'oncle, le grand-père, enfin tout un ensemble de personnes qui dans nos sociétés encore jusqu'à récemment et dans certains milieux sociaux continuent à intervenir pour essayer d'arranger les choses. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces figures de médiateurs traditionnels sont assez différentes quand même du médiateur moderne, hein. Donc je dirais que d'abord, comme ils sont issus de la communauté, ils sont proches, ils sont vécus comme proches et ils sont vécus comme partageant des valeurs, ce qui n'est pas du tout le cas du médiateur moderne. Donc on attend du médiateur que ce soit quelqu'un qui porte les mêmes valeurs que nous, on doit pouvoir s'y retrouver. Et alors une deuxième chose, c'est que c'est un personnage d'autorité. Donc ce qui est aussi à la fois proche, mais figure d'autorité. Hein, donc ce qui n'est pas du tout conforme à ce qu'on dit, en tout cas, du médiateur moderne, qui prétend qu'il n'a aucune autorité, enfin, qui voudrait absolument n'en avoir aucune. Hein, donc voilà. Mais cette figure d'autorité, dans ce mode traditionnel, est très importante. Et elle s'ancre, selon les modalités, souvent dans une forme de sacré. Hein, donc, une référence à du sacré, quelque part, qu'on va utiliser, parfois explicitement, en se référant à des textes sacrés pour essayer de concilier ou pour de rétablir une forme de paix, etc. Et ce que c'est très important de voir, c'est que jamais ils interviendront quand on va vers la rupture. Donc c'est toujours pour essayer de faire que les gens restent ensemble, que le couple continue, que la famille continue. Mais si on va vers une rupture, ça s'arrête. Ça s'arrête. Et à ce moment-là, il y a un appel à la justice. Okay? Alors pas la justice, pas la colombe. Hein? C'est la justice, le glaive. On veut que justice soit faite. Une justice qui accepte de trancher, de dire qui a raison, qui a tort. Qui gentiment organise les choses parce qu'on ne veut plus parler. Hein, donc, et une justice qui, au besoin, vient rappeler la règle formelle qui a été violée et qui est à l'origine éventuellement de la séparation et du divorce. Donc c'est typiquement la figure du divorce pour faute qui correspond à cette logique ancienne, et c'est pas par hasard qu'elle est en train de... ou elle a largement disparu de nos droits. Bon. Donc ça, c'est quelques éléments d'un vécu familial traditionnel que je veux vous donner, et pour vous mettre en opposition de cela, évidemment, ce qu'on connaît, c'est la logique du modèle familial contemporain qui s'impose de plus en plus depuis, je dirais aussi, une quarantaine d'années, beaucoup plus égalitaire, évidemment, égalitaire dans la répartition des rôles dans la famille, hein, donc on sait bien, tant au niveau du travail que de soins des enfants, même si c'est pas tout à fait égalitaire, en tout cas, il y a cette idée que ça doit être interchangeable, et on n'arrête pas de négocier, on doit toujours négocier, donc c'est très important. Et puis autorité négociée par rapport aux enfants, et quand il y a séparation, il y a cette idée que eh bien ça ne va pas être traumatisant, hein, tant qu'on respecte certains principes, et les principes ils sont assez précis quand même, c'est le maintien d'un accès égalitaire de chaque parent, le plus égalitaire possible de chaque parent aux enfants, donc ça veut dire le maintien, le respect de la place de l'autre auprès des enfants, hein, et le partage de la charge des enfants, et puis aussi la poursuite de cette capacité à négocier, à écouter l'autre, à se remettre en question, à mettre de côté ses affects négatifs, hein, tout un ensemble de choses qu'on pourrait appeler maintenant, et alors il y a une profusion d'offres dans ce domaine, c'est la collaboration parentale, si vous voulez. Alors tout ça paraît évident quand on en parle, mais ce ne l'était pas du tout, ou c'est en fait extrêmement nouveau. Et donc, si vous voulez, moi je crois que c'est ce programme qu'on impose aujourd'hui aux parents divorcés, qui me paraît central, et c'est l'accord entre tous les intervenants, quelque part, juges et médiateurs, sur ce programme-là, qui explique que, dans une large mesure, dans le champ familial en tout cas, que finalement, une forme de justice soit rendue de manière très similaire, tant du côté du médiateur que du juge. Donc, si vous voulez, il y a ce côté à la fois, ce pan de la déformalisation du droit, mais il y a aussi la manière dont tout le monde est d'accord sur ça serait quoi une famille qui fonctionne bien, ça serait quoi, en tout cas, on est tous d'accord qu'il faut absolument communiquer, on est tous d'accord qu'il y a une certaine bonne manière de se séparer ou de ne pas se séparer, voilà. Donc, tout ce que je dis là a aussi largement été commenté, vu il y a déjà longtemps par quelqu'un comme Benoît Bastard en France, qui est allé faire des études où il a remarqué comment les juges aux affaires familiales fonctionnaient. Il a été frappé par, effectivement, que la manière dont ça se faisait, qui était finalement très proche de la logique de la médiation. Alors, je dis bien, c'est un programme imposé, hein, donc imposé aux parties. Donc, on n'arrête pas de parler de négociation, mais en fait, c'est bien imposé. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit bien que les parents rentrent dans ce programme, qu'ils adhèrent, qu'ils participent, qu'ils collaborent. Le parent ou les parents qui ne rentreraient pas dans cette logique se verront confrontés, en fait, à des processus de disqualification progressive, peut-être perte de garde, etc. Et puis, quand c'est toute la famille qui ne correspond plus, eh bien, on continue à parler de négociation, on continue à parler... que c'est quoi le terme dans lequel il s'agit, c'est l'aide consentie, hein, donc là on est carrément, mais quand on s'y connaît, on sait un peu que quand on parle d'aide consentie, c'est qu'on est déjà avec de moins en moins de pouvoir et avec en fait une emprise de l'État considérable sur la famille. avant d'arriver finalement à une justice qui ose dire son nom et qu'à ce moment-là, vraiment, on place les enfants. Vous voyez, il y a une espèce de discours qui voudrait ne jamais utiliser, enfin ne jamais avouer qu'en fait on est quand même dans quelque chose d'une politique étatique des familles qui s'impose et qui est quand même relativement prégnante. Voilà. Alors, moi, ce qui me frappe dans ma pratique et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que il y a un public relativement large finalement. Je dirais, pour faire très bref, hein, mais voilà, bon, populaire, de milieu ouvrier, ou issu de l'immigration, ou peut-être issu de milieux aisés, conservateurs, souvent croyants, enfin bon, qui, pour faire très bref, et bien sûr, il faudrait être beaucoup plus... mais qui ne partagent pas cette vision déformalisée, si vous voulez, horizontale de la famille, et pas davantage non plus cette vision déformalisée de la justice familiale. Ces personnes, et parfois l'un des deux, donc aussi ça crée une forte inégalité dans les ressources de négociation, ça vous l'avez dit, c'est tout à fait clair, l'un des deux peut être extrêmement mal à l'aise, parfois les deux, mais c'est souvent l'un des deux, plus souvent l'homme, en fait, mais bon, on va pas... peut être extrêmement à l'aise, mal à l'aise par rapport à la nécessité de prise de parole, de l'expression de soi, de la nécessité attendue par tout le monde de se remettre en question, parce que c'est des choses que les juges demandent aux gens, remettez-vous en question, on entend ça en permanence dans les tribunaux, c'est très frappant. Bon. Et ces personnes-là, si vous voulez, il y a un discours dans le milieu qui se développe où on vous dit que ce sont des personnes qui sont inadaptées, hein, immature, primaire, hein, c'est vraiment le discours qui circule, alors que je crois que ce sont des personnes qui, en fait, sont encore dans une demande de justice plus formelle, verticale, une justice qui vient de faire arrêt. Et donc, si vous voulez, leurs propos et reproches réciproques, qui a été connoté très négatif, qui est connoté très négativement aujourd'hui, relève en fait d'une logique qui était celle du divorce pour faute. Alors c'était une logique qui était tout à fait admise. C'était à un certain moment, même si je me trompe, c'était la seule possibilité de divorce. Hein. Donc c'est quand même pour dire que ça a été assez légitime, mais ça a été, dernièrement, ça a été complètement décrié, et puis finalement on a tout à fait enlevé de notre droit. Donc, aujourd'hui que le divorce est devenu une procédure en fait administrative, hein. En Belgique, il paraît qu'on a même pensé le donner aux officiers de l'état civil pour dire qu'il n'y a vraiment plus rien à discuter quand on divorce. C'est juste question de papier, on voit si on a les conditions ou pas. On ne l'a pas fait, mais au fond, ça ne change rien. Je peux vous dire, procédure de divorce, c'est-à-dire que le conflit conjugal ou le conflit post-conjugal a été en fait, sur ce plan-là en tout cas, a été déjudiciarisé et même déjuridicisé. Donc, il n'y a plus, ça n'intéresse plus l'État, débrouillez-vous, vous gueulez les uns sur les autres, ça ne nous intéresse pas. Il a été un salaud dans la manière dont il vous a largué, ça n'intéresse plus l'État. Hein, donc, c'est quelque chose... voilà. Et donc, on assiste à ce phénomène où ces situations où des conflits très forts avec des gens qui ont vécu dans une forme de dépendance mutuelle... réciproque et ça se passe, la séparation se passe très mal, il y a un vécu de trahison très très fort, hein. Eh bien ces situations-là ne sont plus traitées par l'institution judiciaire et paradoxalement elles arrivent chez le médiateur parfois, parce que les juges n'arrivent plus à traiter, hein. Et donc ils disent, oh là là, bon ça vous allez chez le médiateur. Donc, et donc, le médiateur se trouve avec cette situation tout à fait paradoxale, que c'est lui maintenant qui doit gérer ce qui correspond, je dirais, le plus à des questions de demande de justice. Parce que la justice, elle, ne répond plus à ces demandes de justice. Et donc, c'est chez le médiateur qu'il devient finalement le seul endroit où on peut dire c'est injuste, c'est dégueulasse la manière dont tu as fait ceci ou cela. Parce que ça, les juges, et les gens vous le disent, hein, les juges, ils ne s'intéressent qu'aux enfants. Et donc, quand devant le juge aux affaires familiales ou au tribunal de la famille, on ose dire que l'autre est un salaud et qu'on ne parle pas de l'intérêt de l'enfant, on est un très mauvais parent. Et donc, voilà. Et donc, les médiateurs doivent aujourd'hui apprendre, en tout cas, je m'y attache, se former, s'armer pour recevoir des situations de haute conflictuosité, si je puis dire. Mais vous voyez que cette figure de médiateur-là est assez différente de celle qu'on peut avoir avec des publics plus arrondis. Hein, les gens comme ça qui sont bien dans le modèle ambiant. Hein? Non, quand on est avec des gens comme ça, c'est autrement. Donc, Moi, j'ai développé des manières beaucoup plus engagées d'être avec les gens, confrontant, contenant aussi, quand ça pète vraiment très fort, un travail explicite sur la déliaison et quelque chose qui vient chercher des outils, oui, en thérapie familiale, dans des choses parfois, parce qu'il faut pouvoir les aider quand même. Donc, pour quand même arriver au terme de ce que je voulais vous dire, il y a des va-et-vient entre procès et médiation, c'est courant, c'est extrêmement fécond. En fait, il y a une offre plurielle de règlement de conflit, et je dirais que plus les situations sont difficiles, plus on voit que dans ce champ familial qui m'occupe, le passage de l'un à l'autre en fonction des moments, et pas seulement même en fonction des familles, en fonction des moments est tout à fait fécond. Et quelque chose qui est tout à fait intéressant. Donc, on n'est pas du tout dans cette idée qu'il y a une offre qui exclurait l'autre, enfin, quelque chose comme ça. Oui, bien sûr, j'ai dit la justice familiale et la médiation sont traversées par des logiques communes, mais aussi pour les raisons que j'ai essayé de mettre en avant et qui sont propres à la question de l'évolution des familles et de la manière dont on est censé aujourd'hui se séparer, cette nouvelle idéologie qui est présente. Mais je le répète, il y a un grand nombre de personnes qui n'arrivent pas à rentrer dans cette logique négociatrice, égalitaire, et somme toute assez psychologisante dans laquelle se trouve aujourd'hui prise la justice familiale. Donc, moi je crois que nous, intervenants de la justice au sens le plus large, la justice familiale, j'entends, donc juge, médiateur, mais coach, thérapeute, intervenant dans les espaces rencontres, nous devrions rester ouverts à ces publics qui restent avec un vécu familial plus traditionnel. Ces publics, ce qui est frappant, c'est que la figure du juge et de l'intervenant judiciaire ou parajudiciaire, et leurs attentes, et ça, parfois peu en phase avec les derniers développements en matière judiciaire. Pour ne prendre que ces deux traits, puis j'en terminerai par là, beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise avec la figure d'un intervenant neutre et distant, pour les raisons que j'ai évoquées notamment. Eux, ils attendent engagement, chaleur, proximité. À la limite, ils veulent qu'on parle de nous-mêmes, qu'on se dévoile, qu'on montre qu'on soit touché par ce qui leur arrive. Vous voyez. Ils veulent qu'on parle des valeurs, se raccrocher à des valeurs communes. Donc tout ça en rapport avec, évidemment, cette idée du médiateur traditionnel, Mais ne croyez pas que c'est uniquement des publics extraterrestres, on en rencontre tous les jours, et en fait dans des milieux très larges. Deuxième point, c'est qu'ils projettent sur nous, juges et médiateurs, une fonction d'autorité qui est indéniable. C'est tout à fait palpable avec certains publics. Et je vous le dis, en tant que juge, on ne se rend peut-être pas compte parce que c'est naturel et puis c'est propre à la fonction. Mais en tant que médiateur, on nous apprend qu'il ne faudrait pas. Et bien, pourtant, il y a certaines personnes qui nous mettent tout le temps dans une position de, nous on dit de juge, mais il faudrait dire d'autorité, pour être plus large et au sens... Et donc moi j'invite vraiment chacun, à partir de la place qui est la sienne, c'est-à-dire le médiateur, le thérapeute, l'intervenant social ou psychologique, les magistrats, à assumer cette place d'autorité qui est la sienne, mais de manière décalée, enfin, pas à l'ancienne, et c'est compliqué à faire, je reconnais, mais voilà, j'essaye de m'y atteler, notamment en m'inspirant de comment ce qu'on fait dans un cadre plus traditionnel, prendre cette place parfois de sage, un petit peu prendre une place d'expert à un certain moment. Venir avec des propositions, mais qui ne soient pas enfermantes, tout ce type de choses. Enfin, il y a un ensemble de choses à faire par rapport à ça. Et puis, inviter les juges, les magistrats, à, dans certains cas, oser trancher. C'est quelque chose qui est paradoxal, qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de magistrats qui ne veulent pas trancher, ou quand finalement, ils voient qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, ils grondent les parents, comme si c'était de très très mauvais élèves, parce que on est obligé de trancher. Vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord, Alors que, comme si c'était une question de, si vous voulez, alors que c'est un problème fondamentalement idéologique et culturel, que ces personnes, c'est pas qu'ils ne peuvent pas, mais c'est que c'est contraire à leur idée. Et que quand il y a quelque chose de tranché qui vient d'en haut et qui s'impose, la paix intervient. Ce ne sont pas nécessairement des gens querelleurs ou pathologiquement querelleurs, si vous voulez. Voilà. Donc tout ça m'amène à conclure en disant que, par un drôle de retournement de l'histoire, si vous voulez, je suis amené en médiation dans ce lieu qui est par excellence le lieu d'une nouvelle forme de justice familiale, à réhabiliter en fait des manières d'être et de faire qui sont peut-être des manières qui parfois sont oubliées par les juges eux-mêmes, en tout cas une certaine place d'autorité, notamment un ensemble de choses qui sont au fond d'une logique qu'on croit avoir perdue ou un peu trop vite, me semble-t-il. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire.
L'exposé est très riche, il donne à réfléchir et il va me donner à réfléchir. J'ai évidemment beaucoup aimé le lien que vous faites entre la déformalisation de la justice et la déformalisation de la structure familiale. C'est évidemment quelque chose qu'on peut comprendre dans une perspective très historique, parce que on est parti d'une situation dans laquelle le juge, c'était le père de famille. La justice, elle était interne à la famille, elle était dispensée par le père. Et puis petit à petit, on assistait à un processus d'externalisation de la fonction juridictionnelle en dehors de la famille, d'abord au profit du tribunal de droit commun, puis ensuite au profit de juges spécialisés. Oui. On s'est arrivé en France au milieu des années 70 avec la réforme substantielle du droit du divorce et la création du juge aux affaires matrimoniales, qui a remplacé le juge aux affaires familiales, et puis est apparue la figure du médiateur familial. Et donc il y a eu à la fois un phénomène d'externalisation et de diversification de la fonction de régler les litiges familiaux, qui est évidemment en étroite relation avec l'évolution des modèles familiaux eux-mêmes, et on a tous en tête les grandes idées qui ont animé le doyen Carbonnier lorsqu'il a conçu les grandes réformes du droit de la famille à partir des années 1970. À chacun sa famille, à chaque famille son droit. Et là, on est dans un système où on pourrait dire à chaque famille son juge. Son juge au sens large, son mode de règlement du conflit. Je trouve votre analyse extrêmement, extrêmement féconde. Je me pose simplement une question. Vous avez dit que cette déformalisation de la justice, qui fait écho à la déformalisation de la structure familiale, s'inscrivait dans le cadre, si j'ai bien compris, de ce que vous appelez un programme imposé aux partis. Vous n'hésitez pas à parler de politique étatique des familles. La question que je me pose est la suivante. Est-ce que cette politique étatique de la famille ne cache pas d'autres considérations qui pourraient aussi expliquer le développement de la déformalisation des modèles juridictionnels? Et c'est très trivialement, très simplement, l'économie à faire sur la justice, dont le développement du management est aussi un des outils. On le voit bien, je crois, en France, pour ce qui concerne la déformalisation des procédures juridictionnelles. Elle s'explique assez trivialement par la nécessité pour le juge de trancher plus rapidement, donc plus de dossiers, au moindre coût. Voilà, donc il y a sans doute une sorte d'évolution culturelle à laquelle je crois profondément, parce que les paradigmes sociaux ont évolué, c'est certain, mais cette évolution-là trouve aussi un relais assez puissant dans des considérations peut-être moins nobles et qui tiennent à la nécessité de faire des économies sur le fonctionnement de toutes les institutions, y compris sur le fonctionnement des institutions judiciaires. Alors je ne sais pas si cette problématique-là fait sens aussi en Belgique, mais en tout cas, elle intervient dans le paysage français.
Tu réponds ?
Oui, mais très rapidement, que la salle est en... Oui,
très rapidement. Je crois qu'effectivement, il y a les mêmes pressions en Belgique, mais je ne suis pas spécialiste en la matière. Il y a clairement une pression du politique comme en France, vous le disiez, pour développer les règlements alternatifs de conflit, pour alléger le travail judiciaire. Mais je ne suis pas en fait convaincu que sur ce point-là, on assiste au même phénomène, parce qu'en réalité, j'ai l'impression qu'il y a, parallèlement, si vous voulez, c'est clair que, en ce qui concerne le divorce, ça correspond notamment à cette idée-là. On ne veut plus que des juges s'occupent du débat entre ex-époux. Ça, vous allez faire ailleurs. L'État ne veut plus payer pour ça. Mais parallèlement, on a quand même le développement d'un panel d'outils nouveaux, notamment judiciaires, qui sont importants et qui n'existaient pas avant, pour intervenir de manière quand même substantielle quand on s'inquiète.
Et qui ont leur coût.
Et qui ont leur coût considérable. Et qu'on ne délègue pas. Ou alors c'est de la délégation très rapprochée. Donc ce sont des services. Si vous voulez, par exemple, si on prend la problématique de l'aliénation parentale, donc quand un parent est suspecté de faire obstacle au contact de l'enfant avec l'autre parent, on est quand même dans une situation de gonflement considérable de l'intervention judiciaire. Donc. Tout ce qu'on entend dans la matière, c'est le juge garde le dossier, tout proche. On ne veut plus que ce soit un expert qui s'en occupe à distance. C'est l'expert va devoir rendre des comptes en permanence. Le juge va. Donc c'est vraiment une mise sous tutelle de familles qui ont un coût judiciaire, à mon avis, considérable, enfin, un coût en termes de management. Donc j'ai vraiment l'impression que voilà, il y a cette logique autre qui fait que il y a quand même une politique de famille à maintenir, même si à certains égards ça peut entraîner des coûts.